9 septembre 1995. Et dans ce dialogue que nous allons avoir avec Daniel Cérézuel, on va essayer de faire une promenade biographique et une promenade dans la mémoire, dans vos souvenirs. Alors, on commence toujours par ces questions rituelles sur votre date et votre lieu de naissance.
C'est le 28 novembre 1910. Ma date de naissance à Bordeaux.
Et où exactement est-ce que vous vous souvenez?
Je ne me rappelle pas, parce que mon père a successivement possédé la pharmacie du cours de l'intendance, puis ensuite la pharmacie du cours de la rue du Palais Gallien. C'est de la rue du Palais Gallien que je me souviens, en face de la Grande Poste, au cœur de Bordeaux. Au cœur de la ville.
Vos parents?
Mais mes parents, ce sont des provinciaux qui appartiennent à une famille catholique d'Agen, les Martins. Mon grand-père était banquier d'Agen, personnage influent, membre vice-président du conseil général, ami intime du président de la famille Falière. Il y a eu toutes sortes de rapports entre ces familles. Tandis que mon père, lui, était protestant de la ville d'Aiguillon. Son père, qui était un petit meunier du village de Grateloup, où j'ai retrouvé d'ailleurs le moulin d'origine, qui est dans un paysage complètement dévasté par le remembrement. J'ai une photo, un moulin, vous savez, fortifié avec des échauguettes, quoi, probablement du 14e, 15e siècle, quoi. Et ce petit meunier, qui avait ce moulin sur la Lède, un ruisseau du Marmandais, a acquis ensuite le grand moulin qui barre le Lot et qu'on voit très bien de la voie ferrée Bordeaux-Toulouse.
Au niveau de leur sentiment politique, ils étaient républicains, vos parents, l'un et l'autre.
J'ai longtemps cru, vous savez, parce qu'il y a eu toute une histoire à propos du mariage de mes parents. Ma mère étant catholique, mon père protestant, mais surtout gros notable du département. Et alors, ils ont obtenu de l'évêque que le mariage ait eu des discutailleries ridicules, vous savez, pour savoir, parce que l'Église catholique interdit le mariage à l'Église dans ce cas. Et les enfants sont catholiques. J'ai été baptisé catholique. Vous voyez ?
D'accord.
Je représente tout à fait un bâtard à ce point de vue.
Et dans Bordeaux, c'est mal vu, parce que le mariage entre guillemets mixte entre le protestant et le catholique était un peu hérétique.
Ben, c'est-à-dire, pour mes parents, ce qui était l'important, c'est que ce mariage soit officiel. Et alors, c'est pour ça que de l'évêque, on raconte dans la famille que mon grand-père, qui était le gros personnage, a obtenu de l'évêque d'Agen que ça ait lieu sur la porte de la sacristie, un pied dans la nef. C'est une question de pure. Les questions religieuses dans ma famille, je crois que c'est un aspect important de ma pensée, on peut dire, sont déjà abolies. La mort de Dieu, on peut dire, a déjà eu lieu dans la génération. Et je me suis aperçu, mon frère, marin, commandant aux messageries maritimes, qui a été marin, m'a révélé que finalement c'était un mariage de francs-maçons entre des radicaux catholiques et des radicaux protestants. Mais que la grande affaire, c'était ce genre d'accord entre notables qui, sous la Troisième République, avait joué un rôle capital.
Politiquement, non pas votre grand-père, mais votre père, est-ce que par exemple il avait des engagements, des valeurs? Était-il abonné à des journaux et faisait-il de la politique active?
Mon père était abonné au Monde, qui s'appelait Le Temps.
Le Temps de l'époque, ça le situe dans le monde opportuniste et libéral.
Oui, conservateur et surtout patriote nationaliste français. Ouais. Mon père a été le secrétaire de la Ligue pour la rive gauche du Rhin, qui au lendemain de la guerre a été le... si vous voulez, revendiquer la réunion de la rive gauche du Rhin à la France.
Ah oui. Oui.
C'est ce qu'il y avait de marquant, quoi, dans son opinion.
Vos parents sont partis donc d'Agen vers Bordeaux.
D'Agen vers Bordeaux, parce que mon père et ma mère, mes parents me l'ont assez ressassé, ma mère avait eu la plus grosse dot du département, 50 000 francs or.
Ouh là là,
avec cet argent, mon père, qui était pharmacien en Irak d'abord, qui a commencé sa vie comme pharmacien en Irak après ses études de pharmacie, est devenu pharmacien à Bordeaux. Et il avait suffisamment d'argent pour s'acheter une pharmacie importante du centre de la ville pour de l'intendance.
Vous avez eu combien de frères et sœurs ?
Eh bien, j'ai eu... mon père était très fier de dire « j'ai eu 4 enfants ». À l'époque, c'est une génération, c'était une famille nombreuse. Vous savez, c'était la génération du creux de la vague. Alors, j'ai eu 4 enfants qui ont eu des destins très différents. L'aîné, c'est mon frère Jacques, dont je vous ai raconté l'histoire, qui a été pris pour être jeté au front entre la première partie, là, il faut réaliser ce que ça représentait pour un gosse, on peut dire, entre la première partie et la seconde partie du bac. Et quand il est revenu, on a prétendu lui faire passer son bac de philo, vous vous rendez compte. Et alors, ce n'était pas un intellectuel.
Alors, on va revenir sur cette anecdote, du retour à la guerre. Donc, vous aviez un frère qui avait en gros, pas tout à fait 20 ans, 1917.
C'est ça, qui a été pris, je crois, 18 ans par anticipation, classe 17, c'était d'accord. Ça. Sa main était prise par anticipation, effectif.
Donc, après deux autres frères et sœurs.
Alors, après, j'ai eu... mon frère Pierre, qui a eu une vocation tout à fait baroque pour un fils de Lot-et-Garonne, il a eu la passion de la mer. Et alors, il a même commencé par essayer de s'enfuir à bord d'un paquebot. Il a fallu que mes parents aillent le tirer de là pour lui faire passer son bac. Et ensuite, il est devenu marin. Il a passé son brevet de capitaine au long cours. Mais comme il trouvait que la Transat, c'était une ligne trop ordinaire entre Bordeaux ou les chargeurs entre Bordeaux et l'Afrique, il a fini aux messageries maritimes de Marseille parce que ça lui permettait de faire les lignes les plus lointaines et les plus intéressantes.
Pacifique.
Le Tahiti, vous savez, il est allé vraiment aux Hébrides quand il y avait encore des tribus anthropophages, quoi. Et dans les endroits les plus retirés.
Il avait quel âge ? Il était plus âgé que vous ?
Oh, il y a un certain saut entre mes frères et moi. Henriette, vous donnerez date de naissance de Pierre.
99.
Oui, donc, je crois que Jacques, c'est 98, oui. Pierre, 99. Et alors ensuite, c'est ma sœur Marc, ma sœur qui avait aussi une histoire particulière, puisqu'elle est américaine maintenant, à la suite, elle est tombée, ou plutôt elle est tombée amoureuse au cours d'un séjour à Bordeaux, je ne me le rappelle plus si c'était à Bordeaux ou en Amérique. Hein. Je crois que elle a fait un premier séjour en Amérique, et elle a épousé un petit professeur d'université Quaker, un très brave type d'ailleurs, pour lequel j'avais de la sympathie, vous savez, à la fois fantaisiste, vous savez, et fort généreux, quoi, qui était prof dans une petite université quaker de Pennsylvanie. Oui. Son père dirigeait une très importante institution de la ville, le Girard's College, qui a été fondé d'ailleurs par un Bordelais.
C'était immigré aux États-Unis.
Oui. Et alors, à l'époque, on ne se rend pas compte, l'idée pour mes parents que ma sœur épouse un Américain, c'était comme si elle avait épousé un Espagnol ou un Portugais, une déchéance. Alors, il y a eu des scènes épouvantables. Ma sœur est partie après avoir forcé la porte de l'appartement.
Vers quelle date ?
Ça doit être la fuite de Marthe. Elle devait avoir 18 ans, par là, 19 ans, après le bac, quoi. Et elle avait commencé ses études d'anglais, même.
En 22 ou 23,
ouais, ça doit être 22 ou 23, par là. Et alors, elle s'est embarquée clandestinement sur un bateau qui faisait le trajet avec les États-Unis. Et alors, quand elle est arrivée là-bas, elle est tombée à une époque où les médias n'avaient pas de pâture à se mettre sous la dent. Alors, elle a été accueillie comme une vedette, la petite Française, vous savez, c'était le lendemain de la guerre, la petite Française qui, par amour, suit son mari. Son mari, qui était un très brave type, et qui faisait, lui, était venu lui rendre visite en France comme chauffeur, tenez-vous bien. Abordable.
Pour payer le voyage.
Ouais, un voyage très dur.
Très dur, pensez. Au niveau de vos souvenirs d'enfance, est-ce que vous vous rappelez de l'école primaire? Parce que vos parents étant républicains, vous êtes allé, je suppose, comme vos frères, à l'école laïque, non?
Pas forcément. J'ai commencé par aller dans une école primaire là, de cette rue qui descend du cours de l'intendance vers la rue de Chevreuse. Et c'était une école privée, autant que je me rappelle. Mais après, mes parents m'ont mis dans les classes primaires du lycée Montesquieu, le lycée de Longchamp.
Longchamp, d'accord. Ouais. Et vous avez des souvenirs de la période scolaire, de la classe?
J'étais un élève lamentable, c'est-à-dire emmerdant pour les profs, probablement, agité et me désintéressant complètement de ce qu'on fait étudier au lycée. C'est-à-dire, j'en ai attrapé une allergie, je crois, définitive pour le latin et le...
Là, c'est plus tard. Mais au niveau de...
On t'a appris à lire.
Ah, on vous a appris à lire.
Mais c'est dans l'école primaire de cette rue dont je parlais.
De la rue dont vous parlez.
Ouais. L'atmosphère
familiale.
Mais comment l'atmosphère familiale, je dois dire, mes parents me donnaient très vite... Mon père a été pour moi une sorte de gosse, si vous voulez. Tellement il était très gentil, vous savez. Il était fantaisiste, quoi. Toujours dans la lune. Il ne pensait qu'à fabriquer des produits nouveaux qui lui ont fait perdre beaucoup d'argent. Et faire fortune, vous savez, avec un produit qui le ruinait plus ou moins. Et puis, il s'intéressait, il avait la culture bourgeoise de son époque, c'est-à-dire Zola, Maupassant, vous voyez, la musique de son époque, c'est-à-dire Beethoven plutôt Wagner. Que Bach, par exemple, Wagner, vous voyez.
Vos loisirs, en tant qu'enfant, il y avait des promenades dans Bordeaux, des vacances un peu lointaines, vers, par exemple, Lot-et-Garonne.
Eh bien, avec mes souvenirs d'enfance, je dirais que c'est l'enfermement dans la ville. Parce que mes parents ne prenaient pas de vacances au bord de la mer, ou très peu. Ça leur est arrivé une fois, je crois, à Royan, c'est tout. Alors, ma vie, ça a été d'abord commencer à sortir de Bordeaux parce qu'on m'avait offert un vélo. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures, alors un gosse pouvait sortir tout seul Je me rappelle d'ailleurs les premiers problèmes que les bagnoles m'ont posés, ça me gênait. Je n'étais heureux que quand j'avais dépassé Codéran et que je me retrouvais dans les bois.
Vers quel âge aviez-vous eu 10, 11, 12, 14?
Ça, c'est 10 ans par là.
Ah, en fait, tu as découvert le vieux Bordeaux.
Et alors, en plus, une de mes passions, je me passionnais. Ça aussi, c'est une histoire un peu de milieu pour le Moyen-Âge. Mon père était d'ailleurs membre de la Société archéologique de Bordeaux et secrétaire aussi des Amis de Montaigne, du docteur Arminco. Alors, un de mes plaisirs, c'était d'aller recenser en me baladant tout ce qu'il y avait comme antiquité, dans Bordeaux, que je connaissais parfaitement. J'allais explorer, je me rappelle, cette descente des anciens fossés de Bordeaux qui fait songer à un roman de Poe tellement c'est sinistre et crasseux. C'est derrière le cours Victor Hugo.
Oui, oui,
je ne sais pas si vous connaissez.
Vous connaissez le passage?
Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas.
Ah, c'était très curieux, on descendait par un escalier.
C'est entre là, ça rejoint la rue Rainière par là.
Oui, par là.
C'est un petit passage très étroit, escarpé.
Oui. Est-ce que comme vos parents étaient relativement aisés, vous avez des souvenirs, disons, de sorties en commun le dimanche?
Le théâtre. Mes parents, en bons provinciaux, campagnards.
Oui, l'opéra, c'est pour ça, le grand art.
Les sorties étaient urbaines, quoi. Oui, m'amenait, par exemple, beaucoup à l'opéra. Parce que c'est toujours une histoire de génération. C'est la génération qui avait le goût de l'opéra hérité du Second Empire.
Du Second Empire, c'est le relent du Second Empire.
Il faut vous rappeler que j'avais une grand-mère, par exemple, parce que mon grand-père est mort du cancer, le banquier, assez vite, mon grand-père maternel, et ma grand-mère maternelle, au contraire, est morte très tard, elle était née sous Louis-Philippe, tenez-vous bien. Le Second Empire, pour moi, c'était le... On peut dire
c'était
là,
pas très lointain.
C'était pas... Ça faisait partie du présent.
Ton père était né en 62.
Mon père était né en 62.
Oui, donc en plein Second Empire. Justement, vos grands-pères et vos grands-mères, est-ce que vous alliez les voir en Lot-et-Garonne?
Ah, ça, c'était hélas mes seules vacances. Et alors, ça consistait à aller dans la maison de famille de la famille Martin, au cœur d'Agen, derrière le rempart qui dominait l'ancien rempart de la ville, qui dominait le près des filles de Marie, où je pouvais voir dans le lointain et entendre les trains qui circulaient au pied du coteau de l'Ermitage. Et seulement je ne sortais pas de là, vous savez, c'était le jardin bourgeois, un sol de gravillon sans un brin d'herbe, émergeant de ça de ténébreux magnolias. Et mon
rêve, c'est vos vacances, c'était vos vacances.
C'était mes vacances. Alors la bonne vieille domestique familiale, Margot, me menait parfois au gravier, avec interdiction de se diriger du côté de la Garonne. C'était mon rêve, bien entendu. Alors j'ai eu une enfance, on peut dire, enfermée dans la ville. Quoi.
Enfermée dans la ville, mais vous aviez quand même connu donc ces personnages du 19e siècle, à travers vos grands-mères, vos grands-pères. Ouais. Vous ne m'avez pas parlé de votre mère.
Eh bien, ma mère était, si mon père avait des côtés enfants, avec ses fantaisies, ma mère était une personne qui probablement était fort intelligente, qui avait reçu à l'origine une culture que ne recevaient pas les jeunes filles, puisque mon grand-père a été un des créateurs du lycée d'Agen. Et il a mis, bien entendu, sa fille au lycée de jeunes filles, du lycée de jeunes filles d'Agen. Et il y a mis ma mère, qui a donc fait des études secondaires tout à fait normales, mais qui avait, on peut dire, une vocation de paysanne, un peu. Elle rêvait de vivre à la campagne, et tandis qu'au contraire, mon père était le citadin 100%.
Au niveau de son caractère, elle était votre mère.
Et alors, ma mère était une femme qui avait du caractère, au contraire, qui traitait un peu son mari comme un quelqu'un qui a besoin d'être un peu mieux éduqué et qu'il faut, dont il faut surveiller les sottises.
Oui.
Ce qui entraînait entre mes parents, vous savez, des petites querelles. Mais je crois que ce ménage bourgeois, par ailleurs, avait de l'affection l'un pour l'autre. Je n'ai pas de souvenirs d'histoire, de rupture, de querelles très graves entre eux.
Votre père m'avait dit, bon, suivez un peu la politique. Est-ce qu'il avait des engagements précis? Est-ce qu'il vous a amené vers des, je sais pas, des meetings, des manifestations politiques jeunes, vos frères et vous? Ou est-ce que vraiment il faisait ça en séparant de la vie familiale, ses propres activités collectives, hein, et...
Mon père...
Est-ce qu'il vous a entraîné vers le politique?
Je pense, je crois qu'à l'époque, on s'en rend mal compte aujourd'hui, mais les enfants étaient tenus à part des adultes. Et alors, la politique, quand même, c'était pas l'affaire
des adolescents. Oui.
Voilà, c'est ça, en gros. Et mon père a toujours été, si vous voulez, un bourgeois conservateur, quoi, bien que protestant, fier de l'être, tout en disant, d'ailleurs, « Ah, que c'est beau d'avoir une religion !» Sous-entendu, moi, je n'en ai pas, c'est fort agréable, mais la foi, c'est quelque chose de magnifique. Ça, c'est pour vous dire à quel point j'ai vécu dans une... On m'a fait faire une communion catholique, puisque j'étais étiqueté catholique, mais ce qu'il y a de frappant dans ma famille, si vous voulez, c'est... L'athéisme, c'est pas un mot assez fort, c'est vraiment la mort de Dieu, quoi. Il est devenu impalpable, il n'existe plus, si vous voulez, ça va de soi.
Quoi. Est-ce qu'on vous a fait fréquenter des mouvements de jeunesse catholique, jeune, hein, dont, jusqu'à 14-15 ans, hein, de 10 à 14-15 ans?
Non, figurez-vous, au contraire, mon père a tenu à ce que j'aille aux éclaireurs unionistes protestants. Et alors, une des rares influences que je reconnais dans la formation de ma personnalité, c'est le rôle qu'a joué cette équipe de scouts protestants et les camps admirablement dirigés par quelqu'un de la bonne bourgeoisie protestante, un nommé Bretmeyer, vous savez, et qui était d'ailleurs célèbre par son homosexualité, ou qui lui a attiré, mais de la prison même. Alors, dans ces camps, on voyait arriver toute l'élite de la grande société parisienne, parce que ces camps réunissaient trois institutions protestantes: les éclaireurs de Bordeaux, l'école alsacienne de Paris et l'Institut de Montauban. Et alors, ce qui caractérisait d'ailleurs ces camps, merveilleusement organisés par Bretmeyer, ils avaient lieu dans la solitude totale de la forêt landaise.
Ah voilà, j'allais vous demander le lieu, c'était dans la forêt landaise.
Et à l'époque, il faut vous rendre compte ce que c'était. Par exemple, ces camps ont eu lieu au Truc Vert. Le Truc Vert, à l'époque, pour y aller, il fallait prendre le bateau Arcachon. Mm-hmm. Il n'y avait ni route ni rien. On traversait en bateau jusqu'au Cap Ferret. Et du Cap Ferret, après, en 3 km, donc par des pistes sableuses dans le bois, on atteignait la maison forestière du Truc Vert, où des inspecteurs des eaux et forêts avaient permis à Bretmeyer d'établir son camp. Et là, on vivait toujours une espèce de mythologie, parce qu'il y avait un thème. Il y avait un thème. On était, bien entendu, il y avait les Indiens. Mais alors on était groupés en clans, dans des tribus, si vous voulez. On le vivait vraiment. Ou bien on devenait des Gaulois. Alors dans ce cas-là, on était groupés sur les bords du lac de Cazaux, à Saint-Aubert, perdu dans la forêt, une fois de plus. autour de bateaux. Chaque équipe avait son bateau. Alors vous pensez, pour le petit citadin qui sortait des murs de la ville, le rêve que ça représentait, il y avait la camaraderie masculine, il y avait la nature, c'était le paradis. Je dis souvent, moi j'ai des souvenirs d'été dans ces camps, pour moi. Et alors au fond, même quand, une fois dans la durée du camp, les parents avaient l'autorisation de venir nous trouver, une fois seulement, on les considérait un peu comme des étrangers.
Ces camps duraient combien de temps ?
Ça durait une quinzaine de jours. Mmh.
Et vous aviez quel âge à peu près pour, lorsque vous
Alors là, je devais fois, avoir avez... dans les... C'est autour de mes... J'ai commencé comme louveteau, c'est-à-dire que j'ai eu entre 12 et 16 ans par là.
Louveteau, c'était plus jeune que ça ?
Non, même 10 peut-être.
Oui. 10, hein, 11. Daniel.
Oui, on peut commencer vers 10 ans. Oui.
Et après, vous avez fait est-ce que vous avez fait l'apprentissage du sport de,
Ah, mais c'était... Il y avait toutes sortes... Je dois dire que le Brett Meyer, qui avait vraiment à côté de sa pédérastie, quoi, parce, dans les camps, d'ailleurs, il avait ses favoris, qui étaient mal vus par le gros de la troupe dont je faisais partie, parce que je n'avais rien de séduisant. Hein. Alors... La Brett Meyer nous faisait faire vraiment mener une vie physique dure. Hein,
c'est ce que je voulais vous demander. Vous avez quand même fait un apprentissage de cette vie de collective, avec un social difficile. Il devait y avoir des hiérarchies, des bagarres, peut-être des jalousies, des mésententes. Et ça a été un apprentissage sorti de la vie familiale finalement agréable et sans problème.
Oui, mais il n'y avait, si vous voulez, aucun transfert de la hiérarchie sociale en dehors du camp.
D'accord.
Au camp. Dans le camp, on était camarades. Vous savez, il faut vous rendre compte ce qu'il y avait. Il y avait la tribu des Monod. J'ai eu comme un ami le père de Jérôme Monod, par exemple, des familles qui étaient, on peut dire, appartenaient à l'aristocratie bourgeoise internationale. Le père d'Olivier Monod était le directeur de la banque ottomane qui avait des intérêts, je ne sais plus où.
Vous êtes fait des amis de longue durée dans ces camps ?
Et ça jouait un rôle important. Mais après, on peut dire que la vie, notre situation sociale nous a séparés. Et puis surtout la distance géographique. J'ai eu beaucoup de sympathie pour les frères Monod, par exemple, Olivier et son frère, qui lui est devenu diplomate, vous savez. Alors je me suis fait des amitiés dans ces milieux protestants. Ce qui fait
Bordelais, que... Bordelais, en fait. Et il y avait des jeunes de partout.
Il y avait de partout.
Des Parisiens. Et est-ce qu'il y avait une formation intellectuelle dans les camps, c'est-à-dire des lectures communes, des thèmes et des discussions?
C'est-à-dire, il y avait toujours un culte, encore. Ah, oui. Donc, auquel je me sentais un peu étranger.
Déjà, forcément.
Ben oui, mais le culte n'empêchait pas qu'il y avait des juifs.
Voilà, vous étiez catholique, sachant cela, il n'y avait quand même pas de...
Ah non, aucun problème.
Mais oui, alors donc un culte, et est-ce qu'il y avait éventuellement des lectures, des chants, des pratiques culturelles?
Il y avait naturellement, on pourrait dire, des rites accompagnés de chants, de cérémonies. Vous voyez, par exemple, les feux de camp,
oui,
ce qui nous donnait l'occasion de jouer un rôle, vous savez, parce qu'on imaginait des pièces. Il y avait des rites, d'ailleurs, je pense, ces camps avaient toujours lieu dans un endroit perdu. Hein. Je me rappelle d'un camp, par exemple, de Pâques, à Ourtin, au mois de mars, en pleine forêt, à un endroit qu'ils ont massacré en construisant ce centre audiovisuel à Bombane. Ils ont massacré un site qui était une merveille.
Merveilleux, vous avez le lac.
Enfin, tout ça au nom de la protection de la nature, par M. Marche.
Au niveau des livres, M. Charbonneau, de vos livres. Est-ce que vous avez des souvenirs de est-ce que vous aimiez lire des livres d'enfants, des bandes dessinées éventuellement ou, et puis après vos premiers livres, est-ce que vous étiez passionné de lecture?
Naturellement, j'étais passionné de lecture et je dois dire beaucoup plus que maintenant. J'ai, ma jeunesse, j'ai dévoré des livres. J'ai dévoré, par exemple, depuis le tome 1 jusqu'au tome 12, tout le Shakespeare traduit par François Victor Hugo. À l'époque, l'Odyssée, les 40 volumes, plus ou moins érotiques parfois, du docteur Mardrus, les mille et une nuits, et puis etc., etc., etc.
Et le tour du monde?
Le tour du monde. Mon père était abonné au tour du monde. Ah, il y avait la collection complète de cette revue qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressante que les actuelles publications de propagande touristique, parce que vous saviez vraiment, par exemple, les voyages du docteur Crevaux en Guyane, c'était son mémorandum, ou avec en plusieurs publications.
A-t-il voulu Jules Verne un peu?
Ah, bien entendu. L'île mystérieuse a été un de mes grands moments de ma jeunesse.
Et Wells?
Wells aussi, j'ai eu tout Wells.
Est-ce que ça a marqué des thèmes qui vous ont finalement qui vous sont restés de votre réflexion selon vous ultérieurement? Ces lectures de jeunes, d'enfants, est-ce qu'il y a un auteur privilégié peut-être qui vous a marqué de jeunesse, hein, avant qu'on rentre au lycée, à l'université,
oui,
dans le monde?
De jeunesse, je peux vous dire que Jules Verne et Wells m'ont mis en garde contre le passé. Parce que si vous voulez, cet avenir qu'ils décrivaient n'était plus mon présent.
Oui.
Je crois que c'est ça. Et puis alors, je pense à L'île mystérieuse, l'île au trésor, etc.
Quand même, les îles, Bernard.
Ce qui a été très fort, c'est le rêve de l'île. Le rêve, j'ai toujours rêvé ma vie. Je me dis, au Bouco, je suis dans une île. À Patateia, je suis dans l'autre du même archipel, si vous voulez. Je me suis dit que l'homme qui est libre est forcément lui-même une sorte d'île. C'est-à-dire, il est d'abord lui-même, si vous voulez. Son univers, c'est celui que ses sens et sa pensée lui traduisent.
Il y avait aussi l'apprentissage dans la forêt et puis un frère marin.
Et puis j'avais ce frère marin qui ramenait des objets que je trouvais merveilleux, vous savez, bien qu'il menait sa vie marin.
Il vous écrivait à la famille de...
Ah, il écrivait, oui. Puis mon frère était le chouchou, mon frère Pierre, le commandant, comme disait gravement mon frère, oui, qui menait la vie des, vous savez, soit des cargos solitaires, des stationnaires qui faisaient le détail autour de Madagascar, ou bien alors les grandes lignes où il a fini second des messageries, ou alors il menait, si vous voulez, la vie de palace.
Alors justement, je voulais, à partir de cette réflexion sur l'île, vos camps, votre frère marin, vous poser une question sur le petit enfant qui faisait du vélo dans Bordeaux, le port. Il n'était pas très loin, finalement vous descendiez vers le port. Alors, est-ce qu'il a une importance pour vos promenades d'enfant, vos rêveries, soit seul, soit avec des copains, soit avec d'autres frères? C'est une ouverture, là, vous quittiez la ville avec le port. Vous n'étiez plus enfermé dans l'appartement ou la maison d'Agen. C'est quand même un lieu de rêverie, de flânerie, un port comme celui-là. Est-ce que vous l'avez fréquenté un peu comme je pensais aux jeunes élus, les jeunes qui fuyaient un peu voir les bateaux?
Je l'ai fréquenté. Bien entendu, mon rêve aurait été de partir, bien entendu, comme mon frère Pierre, sur un bateau. Mais je dois dire que d'instinct, ce qui m'attirait, c'était la campagne. La campagne. Et Bordeaux avait un environnement merveilleux parce que au terminus des trains, par exemple dans la haute vallée de la Jalle, vous vous retrouviez dans un désert où vous pouvez remonter la rivière pieds nus dans l'ombre des arbres, des pins et des chênes, sur le sable de la rivière, vous baignez, essayez d'attraper des poissons,
des anguilles,
sans succès, etc.
Des pibales, il y a vu. Est-ce que vous êtes allé par exemple dans les marais Bruges
Ah, mais naturellement, que je me suis beaucoup baladé dans la région. Surtout qu'on pouvait se baigner à l'époque dans la Jalle inférieure.
Au niveau de Bordeaux même, vous avez connu un Bordeaux et un autre Bordeaux. Après, vous aviez fait hier, dans notre prise de contact, une réflexion qui m'a beaucoup marqué. Vous m'aviez dit un jour, j'ai vu que dans ma rue du Palais Gallien, j'allais dire devant ma porte, des choses avaient changé bizarrement. Il y avait des ménagères, il n'y avait plus de chats, de chiens. L'univers avait basculé. Quand est-ce que vous datez cette réflexion et quelle est l'importance pour vous de cette prise de conscience, d'un changement de vie, d'atmosphère, d'univers social, humain? Est-ce que vous avez, ça a été lent ou c'est tardivement que
ça a été venu? Très ancien. C'est quasiment enraciné dans mon enfance, mais si vous voulez, l'époque où j'ai commencé à théoriser un peu ça, bien entendu, c'est à l'époque de mes échecs au bachot, par exemple, c'est-à-dire 18 ans, 19 ans. Et ce qui a été très fort, je crois, pour mon amour de la nature, c'est vraiment ces camps dans la solitude landaise.
Et votre amour de la nature, oui, mais il y a aussi l'amour de la ville de Bordeaux, de ses atmosphères. Est-ce que cette ville, vous y avez étouffé, vous étiez enfermé, ou est-ce que vous avez quand même retenu des choses qui vous paraissent importantes, qui la caractérisent? Comment vous avez quand même aussi traversé Bordeaux? Vous aimiez les vieux monuments, les lieux avec des restes passés. Bon, comment la ville vous la... Vous les avez appris à l'aimer de façon sensible et aussi, c'est pas la nature, ça c'est la nature urbaine un peu. Les tramways, les chevaux, au bout d'un moment vous avez vu fuir tous ces éléments.
Ma ville, vous savez, l'a été pour moi dans la mesure où elle est restée une ville ouverte à l'homme. Car je l'aimais notamment... pour quand j'étais à ce moment-là adolescent, d'ailleurs très lié à un ami intime qui s'appelait Degrenier, vous savez, qui appartenait à une famille, vous savez, cette aristocratie de gentilshommes vergiers par paillot de l'Ardèche, de l'Ariège, quoi. Et alors, il faisait ses études à Bordeaux, à ce moment-là d'abord bachelier, puis ensuite étudiant en droit. Et alors nous nous baladions, je me vois encore dans la rue Ferrer, à côté de la maison des deux Robert, un autre membre de cette famille de Grenier, vous savez, en pleine nuit, devisant interminablement, discutant, dans un silence sous la lune. Et cette ville-là, c'est la mienne.
Les pavés?
Elle était pavée. Ça, il n'y avait pas d'asphalte.
Et les marchés
Les marchés m'intéressaient moins, vous savez. Ce qui me caractérisait, je crois, ce qui est d'ordinaire le fait de la jeunesse, je n'ai découvert sur le tard que l'important, c'est le plaisir de la nourriture, et le marché, c'est lié à ça.
C'est tardif. Au niveau des... Vous parliez de votre vélo, l'arrivée des voitures vous gênait. Est-ce que vous n'avez jamais rêvé de machines, de bateaux, de trains? Ça vous a marqué, jeune? C'était... Par exemple, prendre le train, vous l'avez pris pour la première fois, quand?
Mais le train, je le prenais pour aller à Agen. Et mon rêve aurait été, je me rappelle, à la gare, à continuer vers Montauban ou Toulouse, ce que j'ai fait que sur le tas.
Plus tard, bon. Le cinéma, c'est venu tardivement, ça.
C'est le train, non, le train, j'ai eu jeune, je crois que c'est le fait de ma génération, gosse, la passion des locomotives, vous savez, à Agen, j'allais voir passer le train, sortir du tunnel qui est sous le pont canal, par exemple.
Au niveau, ce qui m'intéresse là, de vos souvenirs d'école, vous n'en parlez pas, vous gommez, on n'est pas encore au lycée, on est encore au début de l'école. Est-ce que des maîtres vous ont marqué, est-ce que vous aimiez travailler les livres?
J'ai
une rigueur des devoirs aussi, de la discipline scolaire.
J'ai été un très mauvais élève.
Vous m'aviez dit,
j'ai réussi la performance de me faire coller deux fois au bachot.
Mais c'est tardif.
Ça a été
tardif. C'est tardif, ça. Mais la première école elle-même, aucun souvenir d'une école...
Oh, très vague, le souvenir d'avoir été gouverné par des femmes, parce que le primaire, c'était le rêve des femmes pour moi.
Une qui a marqué mon frère aussi et beaucoup de gens de cette génération, c'était Madame Bondon.
C'est ça, Madame Bondon, qui a été l'institutrice du lycée, des classes primaires du lycée Montesquieu.
Vous aviez des uniformes à l'époque, des tabliers, des noms.
Oh, les hommes assez peu, c'était les filles.
C'était les filles, d'accord.
Et nous assez peu.
Il y a un souvenir que vous avez évoqué hier qui me paraît intéressant, c'est l'arrivée de votre frère venant de la guerre.
C'est un peu comme, c'est tellement vieux, c'est un peu comme dans un guerre. Mais on a, si vous voulez, des souvenirs, des images, parfois très fortes, très vives, qui restent définitivement imprimées.
Alors pourrions-nous la réévoquer? Vous le voyez arriver.
Oui, on ne lui a pas donné les lettres, il était sur la table.
Venant du combat.
Hein?
Venant de combat, votre frère rentre à Bordeaux.
Oui, l'impression d'ailleurs, c'est qu'il ne venait pas d'un combat, mais d'une espèce de tremblement de terre, ou avec des habits en loque, si vous voulez, crasseux, misérable, quoi. Une espèce de clochard, quoi. C'est le souvenir que j'ai enchaîné encore dans la tête, parce qu'il faut croire qu'on les expédie en permission sans le changer leur uniforme.
Quoi. Et l'armistice, vous avez des souvenirs de ce jour-là?
Je me rappelle que la joie de mes parents, si vous voulez, qui s'est renouvelée au moment de la signature du traité de Versailles, d'ailleurs. C'est ça, c'est tout.
C'est tout.
Je n'ai pas participé à cette joie, quoi.
Oui, au niveau de votre frère, est-ce qu'il vous a parlé de la guerre de 14-18?
Eh bien, mon frère a été quasiment muet sur ce chapitre, évoquant seulement, et assez rarement, le fait, par exemple, d'avoir trouvé des poulets et d'avoir pu les faire cuire avec des copains, des histoires.
Des anecdotes. Il ne parlait jamais de la violence, des combats, de la peur.
Ah non, jamais.
Pas un mot. Quand est-ce que vous avez découvert l'importance de la guerre de 14-18 dans le changement important de société?
C'est venu par la suite, si vous voulez, quand je me suis interrogé, jeune, pour savoir ce qu'elle signifiait pour moi, c'est-à-dire sacrifier ma vie pour la France. Et je n'ai pas trouvé ça naturel, spontanément. Si vous voulez, ce qu'il y a de très net, c'est la difficulté à sacrifier sans interrogation ni problème mon individu à ma société. Ça, très tôt, ça, je veux dire, c'est à ce moment-là que c'est donc venu beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard, vous y reviendrez. Au niveau du lycée, vous avez autre chose là que l'école primaire, jusqu'au baccalauréat, qu'est-ce qui vous intéressait comme matière et quels sont les maîtres éventuels qui ont pu vous marquer
Il n'y a qu'une matière qui m'a intéressé, c'est l'histoire et la géographie. Tout le reste, j'étais d'ailleurs nul, récoltant les notes les plus lamentables, même en français, alors que oralement, j'étais, on peut dire, je crois, doué, si vous voulez. Ce qu'il y avait de frappant, c'est le décalage, si vous voulez, entre mes notes de français et de littérature au lycée, et mes dons naturels.
Bien sûr. Et l'histoire, les périodes, tout vous intéressait?
Eh bien, je dois dire que toutes les périodes m'intéressaient, bien entendu, en particulier les périodes les plus anciennes, parce que pour moi, c'était une espèce de voyage dans un monde différent.
Des maîtres ont été importants au lycée, des professeurs
Je n'ai eu que...
vous ont marqué?
Un professeur dont j'oublie le nom et un autre horriblement chahuté. Alors j'étais très chahuteur, je ne le chahutais pas, je laissais mes collègues faire le maximum de bruit dans la classe, mais j'essayais d'entendre les paroles du brave père qui arrive. encore un papa, il
est père,
dans ma carrière, parce qu'il appartient à une tribu protestante bien connue.
Avez-vous eu des amis de lycée, des camarades de lycée, qui seraient restés plus tard, et où est-ce que tout ça s'est passé comme...
C'est très peu, aucun, je dirais, puisque mon ami de Grenier a surgi sur le tard, cette amitié de jeunesse, cette très forte, si vous voulez. Il y a vraiment entre les jeunes, si vous voulez, des rencontres, et on peut dire qu'on devient ami presque comme on s'épouse, si vous voulez, tellement c'est vigoureux.
Les filles, justement, puisque Henriette est là.
Les filles, ça a été mon drame, parce que j'étais un enfant de vieux. Ma sœur est donc partie en Amérique, vers assez tôt. Alors je n'ai plus eu de filles dans mon entourage. Et je dois dire que je n'étais pas comme mon chef de camp Brett Meyer, je n'avais rien d'un homo au contraire.